Fyodor Mikhailovich Dostoïevski, journal d'un écrivain. Un chapitre personnel. Plus d'une fois, on m'a poussé à écrire mes souvenirs littéraires. Bon, je ne sais pas si je le ferai. Ma mémoire devient paresseuse, puis c'est triste de se souvenir. En général, j'aime peu me souvenir. Quelquefois, cependant, tels épisodes de ma carrière littéraire se présentent d'eux-mêmes à ma mémoire avec une incroyable netteté. Voici par exemple quelque chose qui me revient. Un matin de printemps, j'étais allé voir Yegor Pietrovitch Korvalski. Mon roman « Crime et châtiment », qui était alors en voie de publication dans le Messager russe, l'intéressait beaucoup. Il se mit à m'en féliciter chaudement et me parla de l'opinion qu'en avait un ami dont je ne puis donner le nom, mais qui m'était très cher. Sur ces entrefaites, se présentèrent l'un après l'autre deux éditeurs de revues. L'un de ces périodiques a acquis depuis un nombre de lecteurs généralement inconnus des revues russes, mais alors elle était tout au début de sa fortune. L'autre, au contraire, achevait déjà une carrière naguère glorieuse, mais son éditeur ignorait que son œuvre dut sitôt prendre fin. Ce dernier m'emmena dans une autre pièce où nous demeurâmes en tête à tête. Il s'était montré en plusieurs occasions assez amical à mon égard, bien que notre première rencontre eût été orageuse. Une fois, entre autres, il m'avait montré des vers de lui, les meilleurs qu'il eût écrits, et Dieu sait si son apparence suggérait l'idée que l'on s'en trouva en présence d'un poète, et surtout d'un amer et douloureux poète. Quoi qu'il en soit, il entama ainsi la conversation. « Eh bien, nous avons un peu arrangé dans ma revue à propos de crime et châtiment. » « Oui, je sais, répondis-je. Et savez-vous pourquoi ?»« Bon, question de principe, sans doute. »« Pas du tout. C'est à cause de Tchernychevski. » Je demeurai stupéfait. « Monsieur N., reprit-il, qui vous a pris à partie dans son article, est venu me trouver pour me dire « Oui, son roman est bon, mais voilà 2 ans, il n'a pas cessé d'injurier un malheureux déporté et de le caricaturer. Je vais rinter son roman. » Bon, voilà les niaiseries qui recommencent au sujet du crocodile, m'écriai-je, comprenant tout de suite de quoi il s'agissait. « Mais avez-vous lu ma nouvelle intitulée « Le crocodile » ?»« Non, non, je ne l'ai pas lu. Mais tout cela provient d'une série de points idiots. » Des potins idiots. Mais il faut tout l'esprit et tout le discernement d'un bourgarine pour trouver dans cette malheureuse nouvelle la moindre allusion à Tchernychevski. Si vous saviez comme tout cela est bête, jamais je ne me pardonnerais pourtant de n'avoir pas, il y a 2 ans, protesté contre cette stupide calomnie dès qu'elle a été lancée. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore protesté. Un jour, je n'avais pas le temps, un autre jour, je trouvais le capot par trop méprisable. Cependant, cette bassesse que l'on m'attribue est devenue un grief contre moi pour bien des gens. L'histoire a fait son chemin dans les journaux et revues, a pénétré dans le public et m'a valu plusieurs désagréments. Il est temps de m'expliquer là-dessus. Mon silence finirait par confirmer cette légende. J'ai rencontré pour la première fois Nicolas Gavrilovitch Tchernychevski en 1859, pendant la première année qui suit mon retour de Sibérie. Oh, je ne me rappelle plus ni où ni comment. Dans la suite, nous nous sommes retrouvés ensemble, mais pas très fréquemment. Nous ne causions guère, mais chaque fois nous nous sommes tendus la main. Herzen me disait que sa personne et ses manières lui avaient produit une fâcheuse impression. Mais moi, j'avais de la sympathie pour lui. Un matin, je trouvai à ma porte un exemplaire d'une publication qui paraissait assez fréquemment alors. Cela s'appelait « La jeune génération ». Rien n'est plus inepte et révoltant, j'en fus agacé toute la journée. Vers 5 heures du soir, j'allais chez Nicolas Gavrovitch. Il vint lui-même m'ouvrir la porte, me fit un accueil très gracieux et m'emmena dans son cabinet de travail. Je tirai de ma poche la feuille que j'avais trouvée le matin et demandai à Tcherlichevski: Nicolas Gavrilovitch, connaissez-vous cela? Il prit la feuille comme une chose parfaitement ignorée de lui et en lut le texte. Il n'y en avait cette fois qu'une douzaine de lignes. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» me demanda-t-il en souriant légèrement. « Ah oui, sont-ils bêtes ces gens-là » fis-je. « N'y aurait-il aucun moyen de faire renoncer à ce genre de plaisanterie ?»« Mais vous figurez-vous que j'ai quoi que ce soit à faire avec eux, que je collabore à leur sottise ?» J'étais parfaitement certain du contraire, et je crois inutile de vous l'affirmer. « Mais il me semble qu'on devrait les dissuader de continuer leur publication. Je sais bien que vous n'avez rien à faire avec les rédacteurs de cette feuille, mais vous les connaissez un peu, et votre parole a pour eux beaucoup de poids. Pourriez-vous... »« Je ne connais aucun d'entre eux. »« Ah, du moment que vous me le dites. »« Mais est-il nécessaire de leur parler directement? Est-ce qu'un blâme écrit venant d'un homme dans votre situation ?» Oh, ça ne produira aucun effet, tout cela est inévitable. Pourtant, ils nuisent à tout et à tous. À ce moment, survint un nouveau visiteur et je partis. J'étais parfaitement convaincu que Tcherlichevski n'était aucunement solidaire des mauvais plaisants. Il m'avait très bien reçu et vint bientôt me rendre sa visite. Il passa près d'une heure chez moi, et je dois dire que j'ai rarement vu de caractère plus doux et plus aimable que le sien. Rien ne m'étonnait pas, plus que de l'entendre traiter dans certains milieux d'homme dur et associable. Il m'était évident qu'il devrait se lier avec moi, et je n'en étais nullement fâché. Bientôt, je dus me rendre à Moscou. J'y passai 9 mois et naturellement mes relations avec Tcherlichevski en restèrent là. Un beau jour, j'appris l'arrestation puis la déportation de Nicolas Gavrilovitch Tcherlichevski sans en connaître les motifs que j'ignore encore à l'heure qu'il est. Il y a 1 an et demi, j'eus l'idée d'écrire un conte humoristico-fantastique dans le genre du nez de Gogol. Jamais je n'avais rien écrit dans cette note. Ma nouvelle ne voulait être qu'une plaisanterie littéraire. J'avais là quelques situations comiques à développer. Bien que tout cela soit sans leur importance, je donnerai ici le sujet de mon conte pour que l'on comprenne les conclusions qu'on en tirera. On voyait en ce temps-là, dit ma nouvelle, à Pétersbourg, un Allemand qui exhibait un crocodile moyennant finance. Un fonctionnaire pétersbourgeois voulut, avant son départ pour l'étranger, aller jouir de ce spectacle en compagnie de sa jeune femme et d'un ami. Ce fonctionnaire appartenait à la classe moyenne. Il avait quelques fortunes, était encore jeune, plein d'amour-propre, mais aussi bête que ce fameux Major Kovalov qui avait perdu son nez. Il se croyait un homme remarquable et bien que médiocrement instruit, se considérait comme un génie. Dans l'administration, il passait pour être le plus nul que l'on pût trouver. Comme pour se venger de ce dédain, il avait pris l'habitude de tyranniser l'ami qui l'accompagnait partout et de le traiter en inférieur. L'ami le haïssait, mais supportait toute à cause de la jeune femme qu'il aimait infiniment. Or, tandis que cette jolie personne, qui appartenait à un type tout à fait pétersbourgeois, celui de la coquette de la classe moyenne, tandis que cette jolie personne s'ébahissait des grâces des singes, que l'on montrait en même temps que le crocodile, son génial époux faisait des siennes. Il réussit à réveiller et à agacer le crocodile jusque-là endormi et aussi frétillant qu'une bûche. Le sauria ouvrit une énorme gueule et engloutit le mari. Ce grand homme, par le plus étrange des hasards, n'avait souffert aucun dommage, et par un effet de son gratisme, se trouva merveilleusement bien dans l'intérieur du crocodile. L'ami et la femme, qui le savaient sauf, l'ayant entendu vanter son bonheur dans le ventre de son reptile, allèrent faire des démarches auprès des autorités pour obtenir la délivrance de l'explorateur involontaire. Pour cela, il fallait d'abord tuer le crocodile, puis le dépecer délicatement pour en extraire le grand homme. Mais il convenait d'indemniser l'Allemand, propriétaire du saurien. Le Germain commença par me mettre dans une colère formidable. Il déclara en jurant que son crocodile mourrait sûrement d'une indigestion de fonctionnaire. Mais il comprit bientôt que le brillant bureaucrate avait, sans avoir été endommagé, et pouvait lui procurer une haute recette dans toute l'Europe. Il exigea en échange de son crocodile une somme considérable, plus le grade de colonel russe. Pendant ce temps, les autorités étaient en peine, car de mémoire de rond du cuir, on n'avait jamais vu un cas pareil. Aucun précédent. Puis on soupçonna le fonctionnaire d'être entré dans le corps du crocodile pour causer des ennuis au gouvernement. Ce devait être un subversif libéral. Cependant, la jeune femme trouvait que sa situation de presque veuve ne manquait pas d'intérêt. L'époux avalé venait, au travers de la carapace du crocodile, de confier à son ami qu'il préférait infiniment son séjour dans l'intérieur du saurien à sa vie de fonctionnaire. Sa villégiature dans le ventre d'une bête féroce attirait enfin sur lui l'attention qu'il sollicitait en vain quand il vaquait à ses occupations bureaucratiques. Il insista pour que sa femme donnât des soirées dans lesquelles son tombeau vivant apparaîtrait. Tout Pétersbourg viendrait à ses soirées et tous les hommes d'État invités s'ébahirait du phénomène. Et lui, l'intéressant avalé, parierait toujours au travers de la cuirasse squameuse du crocodile, ou mieux, par la gueule du monstre. Et il conseillerait en parlant ses chefs, il leur montrerait ses capacités. À l'insidieuse question de son ami qui lui demandait ce qu'il ferait s'il était un beau jour évacué de son cercueil d'une façon ou d'une autre, il répondit qu'il serait toujours en garde contre une solution trop conforme aux lois de la nature et qu'il résisterait. La femme était de plus en plus charmée de son rôle de fausse veuve. Tout le monde lui témoignait de la sympathie. Le chef direct de son mari lui rendait de fréquentes visites, faisait des parties de cartes avec elle, etc. Voilà, ici se terminait le premier épisode de ma nouvelle, que je laissais inachevé, mais que je reprendrai un jour ou l'autre. Voici pourtant le parti que l'on a tiré de cette plaisanterie. À peine ce que j'avais écrit de ce récit eut-il paru dans la revue L'Époque, c'était en 1865, que le journal La Voix, Golos, se livra aux plus étranges commentaires au sujet de la nouvelle. Je me souviens pas exactement du texte du factum, mais son rédacteur s'exprimait à peu près comme il suit au début de son article. C'est en vain que l'auteur du crocodile s'exerce à un geste d'humour nouveau pour lui. Il ne recueillera ni l'honneur, ni les profits qu'il escompte, etc., etc. Puis, après m'avoir infligé quelques piqûres d'amour-propre assez venimeuses, le revuiste recourait à des accusations d'embrouillés, certainement perfides, mais incompréhensibles pour moi. Une semaine plus tard, je rencontrai Monsieur N.N. qui me dit « Oh, savez-vous ce que l'on pense en divers milieux ? Eh bien, on affirme que votre crocodile n'est qu'une allégorie. Il s'agit de la déportation de Tchernychevski, n'est-ce pas ?» Oh, tout abasourdi d'une pareille interprétation, je jugeais cependant négligeable une opinion aussi fantaisiste. Un bruit semblable ne pouvait avoir d'écho. Pourtant, je ne me pardonnerai jamais ma négligence et mon dédain en cette occurrence, car cette sotte invention n'a fait que prendre corps et s'embellir. Mon silence même a encouragé les commentateurs. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais où donc est l'allégorie? Oh oui, sans doute, le crocodile représente la Sibérie, et le fonctionnaire présomptueux et nul n'est autre que Tchernychevski. Il a été avalé par le crocodile, sans renoncer à l'espoir de faire la leçon à tout le monde. L'ami faible est tyrannisé par lui, symbolise son entourage, qu'il passait pour régenter. La femme jolie mais sotte, qui se réjouissait de sa situation de pseudo-veuve, c'est... Mais ici nous entrons dans des détails si mal propres que je ne veux pas me salir en continuant l'explication de l'allégorie. Et pourtant, c'est peut-être cette dernière allusion qui a eu le plus de succès. J'ai des raisons pour le croire. Alors, on a supposé que moi, ancien forçat, j'ai eu non seulement la bassesse de m'égayer en songeant à la situation d'un malheureux déporté, mais encore la lâcheté de rendre ma joie publique en écrivant à ce propos une pasquinade injurieuse. Mais sur quel terrain se place-t-on pour m'accuser d'une telle vilenie? Mais apportez-moi n'importe quelle œuvre, prenez-en 10 lignes, et avec un peu de bonne volonté, vous pourrez expliquer au public qu'on a voulu batifoler au sujet de la guerre franco-allemande, se payer la tête de l'acteur Gourounov ou se livrer à toutes les stupides plaisanteries qu'il vous plaira de vous rêver. Rappelez-vous dans quel esprit les censeurs examinaient les manuscrits d'auteurs au cours des années 40. Il n'y avait pas une ligne, pas une virgule où ces hommes perspicaces ne découvrissent une allusion publique. Irait-on dire que je haïssais Tchernychevski? Mais j'ai montré que nos rapports ont toujours été affectueux. Donnez-moi au moins une des raisons que j'aurais pu avoir pour lui garder rancune de quoi que ce fût. Mais tout cela est mensonge. Voudrait-on insinuer que j'ai eu l'espoir de gagner quelque chose en haut lieu le jour où j'ai publié cette bouffonnerie à double sens? C'est me dire que j'ai vendu ma plume. Oh, et personne ne prouvera cela. Si l'on vient me dire que je suis tout cru permis à cause de certaines affaires de famille qui ne regardaient que Tchernychevski, j'éviterai soigneusement de me défendre d'avoir eu une pensée aussi abjecte, car, je le répète, ma défense même me salirait. Je suis bien fâché de m'être laissé entraîner à parler de faits personnels. Voilà ce que c'est que d'aller chercher ses souvenirs littéraires. Oh, cela ne m'arrivera plus !